Il est 7h44.
France Inter, le 6-9 du week-end.
Versailles, un parc où Léo Ferré aimait se promener. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois.
Avec son singe ?
Non, sans son singe, mais il se promenait.
Alain Baraton, vous nous parlez ce matin pour commencer de Louis-Antoine de Bougainville. On va rappeler que c'est un marin français qui est né en 1729.
Et de son vivant, il est une célébrité. Il est en effet le premier officier à avoir fait, lui et son équipage bien sûr, le tour du monde. De 1766 à 1769, il va parcourir tous les océans du monde à bord de la frégate La Boudeuse. Pour vous donner une idée du voyage, sachez qu'il est parti de Nantes en direction de l'Amérique du Sud, puis cap sur la Polynésie, l'Australie, l'île Maurice, le Cap de Bonne-Espérance et enfin retour vers la France dans le port de Saint-Malo. L'expédition de Bougainville est scientifique et il est accompagné de Pierre-Antoine Véron, astronome, Charles Routier de Romainville, cartographe et de Philibert Commerson, naturaliste.
Et Commerson est célèbre pour avoir découvert et nommé l'hortensia.
Et lui encore qui va baptiser une autre plante en l'honneur du chef de l'expédition, le bougainvillier. Précisons tout de suite qu'il est aussi possible de dire bougainvillé, dans quel cas il faut employer le féminin la bougainvillée. Pour compliquer un peu, mais pour être précis, quand vous évoquez le bougainvillier, vous parlez de l'arbuste. Quand vous dites la bougainvillier, vous parlez de la fleur. Encore faut-il qu'elle en soit une.
Oui, enfin, je dois avouer, Alain, que j'ai un peu de mal à vous suivre là.
Alors, on résume. On peut effectivement parler distinctement bougainvillier ou bougainvillée. Les deux termes se disent. Quand on emploie aujourd'hui le terme de le ou la bougainvillier, le désigne donc bien la plante, la fleur. Où il est difficile à suivre maintenant, c'est à propos de la fleur. Parce qu'il faut savoir que le bougainvillier est un arbuste épineux découvert au Brésil, ça je l'ai dit tout à l'heure, et ses fleurs sont petites et blanches, et elles ne doivent pas être confondues avec les bractées, le plus souvent roses ou bleues, ce sont elles qui font la beauté du végétal, elles que l'on prend pour des fleurs. Donc ce qui fleurit merveilleusement bleu en ce moment, ce ne sont pas des fleurs, ce sont des bractées.
Alors, les bractées, qu'appelle-t-on bractées ?
Alors, pour être bien précis, ce sont des feuilles situées à la base d'un pédoncule de fleurs ou d'une inflorescence et qui ressemblent à des pétales, comme le poinsettia, par exemple. Vous voyez, le poinsettia, cette plante qu'on offre à Noël, elle est souvent rose, rouge, et on croit que ce sont des fleurs parce que ce sont des pétales de couleur disposées en fleurs. Ce ne sont pas des fleurs, ce ne sont pas des pétales, ce sont des feuilles.
Vos réponses maintenant, Alain Baraton, vos conseils aux auditeurs, auditrices de France Inter. Cécile de Kérostin ne rate jamais ses semis, dit-elle, sauf quand il s'agit de cléomes. Les cléomes seraient-elles ou seraient-ils capricieux?
Je suis même en train de me demander si ce serait pas, là encore, Bougainvillier qui aurait peut-être découvert, ou plutôt Commerson, les cléomes, parce que ce sont des plantes originaires d'Amérique du Sud, effectivement.
Il y en a à Versailles.
Alors, il y a des cléomes à Versailles depuis une petite vingtaine d'années. Ce sont des plantes qui sont assez extraordinaires, qu'on appelle également la fleur araignée. Elle est produite par une tige rigide épineuse, et les variétés font qu'elle peut grimper à 50 cm, voire 1,50 m de haut. C'est assez étonnant, et elle fleurit le plus souvent blanc, rose, ou rouge. C'est une plante assez particulière, mais qui est un petit peu capricieuse. Ben oui, elle a des exigences.
Il y a des astuces pour ne pas rater ses semis de cléomes.
Alors déjà, la première, comme pour le persil, on fait tremper les graines dans l'eau au minimum pendant 24 heures parce que le tégument, en un mot, la petite enveloppe protectrice de la graine est si épaisse qu'il faut lui permettre de se ramollir pour qu'elle puisse germer. Deuxièmement, elle vient du Brésil, cette plante. Elle est frileuse. Si vous n'avez pas, au moment du semis, en mars-avril, des températures minimum de 19 degrés, ne rêvez pas. Donc, en un mot, si vous faites des petites terrines en ce moment, que vous les mettez dans la véranda à 14-15 degrés, ne rêvez pas, vous n'aurez pas de cléome. C'est une plante un petit peu délicate. Donc, de toutes les graines, oui, elle est l'une des plus difficiles à réussir, mais en revenant mille fois sur la tâche, on finit par y arriver.
Alors, Thomas, à présent, Thomas dit qu'il serait bon que Monsieur Baraton, je lis le message, Monsieur Baraton pourrait-il sensibiliser les auditeurs sur le risque de non-réouverture au public de l'arboretum des bars?
Merci de lire ce petit texte, Eric. L'occasion de rappeler que je ne peux malheureusement pas répondre à toutes les demandes concernant les arbres que l'on coupe en France. Tous les jours ou presque, je reçois des mails qui m'alertent de l'abattage de telle ou telle ville d'arbres dans telle ou telle ville. Et puis on m'a signalé, bien sûr, il y a longtemps, l'abandon peut-être de l'arboretum des Bains.
C'est où ?
Alors, je crois qu'il est du côté du Loiret. C'est un arboretum qui a été géré par l'ONF. Nous en avions parlé ici même il y a quelques mois à propos de cet abandon programmé. tout n'est pas perdu. Moi, je suis de très près, bien évidemment, cette situation. Je crois que bientôt, des réunions importantes vont peut-être décider du devenir. Mais il est vrai que l'arboretum, et surtout l'arboretum des bars, ce n'est pas seulement un lieu de présentation de collections végétales. Il y a une âme, il y a des exceptions, des plantes d'exception. C'est toute l'histoire de la botanique qui est en cause. Donc, on suit l'affaire de près. Mais j'en ai parlé il y a quelques mois, mais nous y reviendrons bientôt.
Thierry, il a une souche d'un mètre de diamètre sur son terrain. Combien de temps faudra-t-il pour qu'elle disparaisse en totalité, vous demande-t-il?
Je pense toujours au sketch de Fernand Reynaud sur le temps qu'il faut. Le fût du canon, oui. Alors, tout dépend bien évidemment du terrain, s'il est humide ou non, et tout dépend de l'essence végétale. Être, par exemple, et bouleau ou chêne. Si, par exemple, il s'agit de la souche d'un chêne, je pense que dans 150 ans, elle sera encore sur place.
Ah oui.
C'est extrêmement long à se dégrader. Donc, ce qu'il faut simplement, c'est la raser, si on n'a pas moyen de faire autrement, à savoir la décaper au niveau du sol et recouvrir par de la terre. Si on a la chance de pouvoir l'extraire avec une pelleteuse, ça coûte une fortune, on le fait. Mais sinon, il faut attendre et patienter plus d'un siècle.
En quelques secondes, la réponse à la question de Luc. Puis-je couper très sévèrement un lilas qui n'a jamais été taillé? Il mesure plus de 2,50 m aujourd'hui, il veut le rabattre à 1 mètre.
Réponse très courte, non, vous allez le tuer.
Un dernier conseil.
Marquez-sac, c'est un jardin suspendu merveilleux en Dordogne. Eh bien, sachez que jusqu'au 11 novembre, l'art contemporain s'installe au jardin. L'occasion de se faire une idée sur l'art contemporain. Il n'y a pas que des trucs moches. Il arrive que l'art contemporain, je parle à titre personnel, soit beau, hein, ou même parfois émouvant. Marquez-sac, par contre, c'est sublime. La région est encore plus belle. Donc, Marquez-sac, l'art contemporain, c'est jusqu'au 11 novembre 2019.
C'était la main verte d'Alain Baraton. À demain, Alain. Il est 7h50.